Bonjour à tous. Donc, vous le savez, on a commencé une série, enfin je dirais même vous avez commencé une série sur Livre des Actes il y a maintenant un bon moment. Est-ce que quelqu'un se rappelle quand est-ce que ça a commencé? Même moi, je ne sais pas. Hein. Donc, c'était il y a au moins un an, quelque chose comme ça. Et puis de temps en temps, on fait une petite pause pour souffler un petit peu. Et ce matin, on va faire une petite pause. Dimanche prochain aussi, on va faire une petite pause. Et je vous propose ce matin de plonger avec moi dans une épître, dans une lettre écrite par un responsable d'église pour les chrétiens de son temps. Et ce responsable d'église, c'est Jacques. Jacques, c'était un des responsables de l'église de Jérusalem. Et au premier siècle, l'église de Jérusalem, c'était une des églises les plus importantes, une église qui faisait autorité, au point même que quand il y a un débat théologique à un moment, dans les églises, eh bien, les responsables d'église vont à Jérusalem pour discuter avec les responsables de Jérusalem pour savoir finalement qu'est-ce qu'on doit croire, qu'est-ce qu'on ne doit pas croire. Et donc Jacques était un de ces responsables. On est au milieu des années 40 après Jésus-Christ. Il propose dans son épître une série de tests. Une série de tests pour qu'on puisse évaluer notre foi et savoir quel type de chrétien on est. Est-ce qu'on est un chrétien seulement théorique, c'est-à-dire qu'on a la foi, mais sans la mettre en pratique? Ou bien est-ce qu'on est un chrétien qui met sa foi en pratique? Quel type de chrétien sommes-nous? C'est le titre qu'on pourrait donner donc à cette prédication. Quel type de chrétien sommes-nous? Vous savez, il existe deux types de chrétiens, hein? Il y a celui qui va rajouter son filtre Instagram de bon chrétien le dimanche matin. Et puis tout le monde le verra comme un bon chrétien. Mais c'est juste un filtre. Et puis il y a celui qui veut être fidèle à Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il croit à chaque jour de sa vie. Et donc pour nous aider à réfléchir à ça, Jacques, il propose une série de tests qui peuvent nous éclairer. Et le test qu'on va voir ensemble ce matin, c'est le test de la résistance au péché. Est-ce que en tant que chrétien, on a la volonté de résister au péché. Mais avant ça, avant de nous plonger dans le texte de Jacques, ce sera au chapitre 4, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un roi qui promit une forte récompense à celui qui serait à même de garder sa tour. C'était une tour qui était en haut d'une colline, et puis il cherchait quelqu'un pour la garder vaillamment. Alors un jeune homme se présente et il reçoit tout l'équipement pour protéger cette tour. Il a une cuirasse, un casque, une lance, une épée, et le voilà parti. Il se met en haut des créneaux et il observe l'horizon. Gare au premier qui s'approche. Parfois des visiteurs viennent et puis tentent de rentrer. Mais le jeune homme, vaillant, fidèle, ne répond qu'il est absolument interdit d'entrer dans la tour. Même pour 40 sous, même pour 100 sous, personne ne rentrera. Et quand on insistait, le jeune homme menaçait de sa lance en se disant que la consigne n'était quand même pas très difficile à mettre en pratique. Il aurait bien sa récompense. Mais un soir, vers 5 heures, en fin de journée, notre sentinelle entendit un petit grattement à côté de lui. C'était un lézard qui voulait rentrer. Pour 10 minutes seulement. Monte, lui dit le portier, se persuadant qu'un lézard, finalement, ce n'était pas une personne, et puis finalement, entrebâiller la porte pour le laisser passer, seulement 10 minutes, ce n'est pas très long. Dès qu'il eut pénétré dans la cour, notre lézard, qui parlait fort bien, charma son hôte par une conversation passionnante. Il est bien gentil, songea le jeune homme, en le voyant partir après les 10 minutes passées ensemble. Le lendemain, le lézard revint, mais cette fois resta 15 minutes, installé près du feu. Et le jour suivant, ce fut une bonne demi-heure qu'il resta. Et en fin de journée, il se plaint au jeune homme en disant: Écoute, ce soir il fait froid, il pleut, il y a du vent. Est-ce que je peux rester pour la nuit? Le jeune homme hésite un petit peu et finalement acquiesce. Et voilà que toute la nuit, ils discutent ensemble. Au petit matin, le jeune homme va se coucher exténué, mais il n'arrive pas à trouver le sommeil. Et pour cause. Car pendant la nuit, sans même qu'il s'en rende compte, le lézard avait grandi. Il était devenu un monstre. Et celui-ci, ce monstre, bondit sur le gardien sans qu'il ne pût rien faire. Effrayé, bouleversé, le jeune homme s'enfuit, laissant la porte ouverte. Et le roi, le propriétaire de la tour, le trouva et lui demanda: Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce ainsi que tu prends soin, que tu gardes ma tour? Surgit par malheur, juste à ce moment-là, le roi lui dit: Ta récompense est perdue. Cette petite parabole nous parle d'une tour qu'il faut garder absolument. Et cette tour, c'est notre cœur. Le petit lézard, c'est le mâle, subtil, discret, charmeur, mais bientôt envahissant. Et la parole de Dieu nous dit: Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce matin, on va parler du péché, celui qui peut sembler si petit qu'on n'y prend pas garde, et pourtant qui peut devenir un monstre envahissant. Et on verra que ce monstre n'envahit pas que notre vie, mais il peut aussi envahir l'Église. L'Église tout entière. Et on terminera en regardant comment est-ce que Jacques donne des conseils très pratiques pour qu'on puisse garder notre tour, garder notre cœur et ne pas laisser entrer le moindre lézard. Et si certains lézards sont rentrés, comment est-ce qu'on peut les combattre? Comment allons-nous résister au péché? Si je devais résumer ce texte aujourd'hui de Jacques chapitre 4 au verset 1 à 12, je dirais: pour que la paix règne dans l'Église, chaque chrétien doit lutter contre les désirs mauvais de son cœur. Et je vous propose de prendre avec moi Jacques chapitre 4, et on va commencer avec les trois premiers versets. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas les désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie, vous ne pouvez rien obtenir, vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes servent à votre propre plaisir. Imaginez un grand responsable d'église qui nous écrit ça dans l'église d'Antibes. Pour Jacques, c'est très important de mettre en garde contre les désirs égoïstes. Parce que le péché vient de nos passions qui ne sont pas maîtrisées. Ces passions, ces voluptés, ces plaisirs qui guerroient dans nos mondes, dans nos membres. Et ces passions, elles trompent notre cœur. Alors attention, là, Jacques, il n'est pas en train de parler de bonnes passions. Il n'est pas en train de parler de choses saines qu'on aime beaucoup et qui peuvent, qui sont des passions de notre vie. Je ne sais pas, on peut parler de la musique, de l'art, de l'étude du grec ancien ou je ne sais quoi encore. Il est en train, là, de parler des désirs égoïstes, égocentriques, qui enfante le péché. C'est ce que Paul appelle dans ses lettres la chair ou l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même sans Dieu, dominé par ce désir insatiable de ses propres désirs. Et ça, c'est ce qui caractérise le chrétien qui n'a, pardon, c'est ce qui caractérise la personne qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. C'est finalement ce qui nous caractérise tous, nous qui sommes aujourd'hui chrétiens, mais qui ne l'avons pas toujours été. Et chez le croyant, cette passion, cette chair, ces désirs égoïstes, ils existent toujours. Mais nous ne sommes plus esclaves, asservis à ces passions, à ce péché, mais nous sommes esclaves et asservis à un bon maître, à un père. À Dieu qui nous aime. Et pourtant, le combat est bien là, n'est-ce pas? Il y a un combat à mener parce que il y a un combat à mener, pardon, pour que ces désirs n'entrent pas dans notre tour, dans notre cœur, de peur qu'ils nous maîtrisent, de peur qu'ils nous deviennent tellement envahissants qu'on ne sait plus quoi faire. Et nous sommes responsables devant Dieu en tant que croyants de contrôler ces passions. Alors ça peut se manifester de plein de manières différentes. Certains seront gloutons et ne peuvent se contrôler jusqu'à presque éclater tellement ils mangent. D'autres vont lutter pour garder un regard pur sur les autres. D'autres encore sont pris de passion pour le jeu ou s'emportent très vite. Certains sont amoureux de l'argent et ils refusent d'être généreux. Bref, ça se manifeste de tellement de choses différentes, de tellement de manières différentes. Et nous sommes tous concernés par ces passions, par ces petits lézards qui arrivent et qui veulent prendre la place dans notre tour. Satan nous fera croire que ces passions ne sont pas si graves que ça, et que finalement elles apportent un vrai bonheur. Le monde nous encourage aussi à vivre selon ses passions, ses émotions, même selon nos pulsions, et on entend sur les réseaux sociaux, vis ce que tu as envie de vivre, ne te limite pas, ne t'interdis rien, vas-y, fais tout ce que tu veux. Mais nous devons maîtriser et combattre. Parce que ce que Jacques nous dit dans le texte, c'est que ces convoitises nous apporteront toujours de l'insatisfaction et nous éloigneront de Dieu. Qui peut prétendre ici avoir déjà été satisfait en laissant libre cours à ses passions? Au verset 2, il dit: Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. On voit ces passions dévorantes, insatiables, incapables de nous procurer le vrai bonheur et la vraie satisfaction. Et notre passage se termine là au verset 3 en montrant que même ces passions nous aveuglent. Elles nous rendent même incapables de demander à Dieu des choses saines. Et finalement, même nos prières sont entachées par ces passions, par ces désirs mauvais. Et on voit même que la prière devient inefficace. Comme si on ne demandait rien à Dieu. Souvent, je trouve que nos prières, mes prières en tout cas, sont révélatrices de ces lézards qui sont dans ma tour. Qu'est-ce que je demande à Dieu? Qu'est-ce que je désire au plus profond de moi? Est-ce que je demande à Dieu des choses selon mes passions, mes désirs, ou alors est-ce que je passe mes prières par le filtre de Matthieu 6, 33? Vous connaissez ce verset peut-être. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. C'est-à-dire prier d'abord pour que Dieu soit glorifié, que je puisse vivre la justice, le royaume de Dieu, et après je fais confiance que Dieu s'occupe du reste. Ça change notre manière de prier. Nous sommes donc tous responsables de maîtriser nos désirs égoïstes, nos passions dévorantes. Et nous en sommes d'autant plus responsables qu'elles ont un impact sur les autres. Parce que le péché résulte de ces passions. Jacques affirme que nos passions non maîtrisées auront des conséquences graves, des conflits, des querelles. Et ce matin, on a chanté, on a proclamé, on a prié que nous étions unis et que nous nous aimions les uns les autres. Amen. Mais malheureusement, quand le péché prend sa place dans nos vies, cette belle unité que l'on vit aujourd'hui dans l'Église peut très vite disparaître. Si je suis en conflit avec quelqu'un, plutôt que de vouloir le changer pour moi, je dois d'abord comprendre comment mes passions ont participé à la création de ce conflit. Quelqu'un a dit un jour, ce qui me dérange chez l'autre, c'est mon péché. Alors pour que la paix règne dans l'Église, chaque chrétien doit lutter contre les désirs mauvais de son cœur. Et peut-être que ce combat, pour certains, vous semble perdu d'avance. Et si vous êtes comme moi, vous êtes probablement souvent découragé par ce combat, par ce manque de ferveur, par tous ces lézards qui sont rentrés dans cette tour et qui vont se transformer en monstres un moment ou un autre si je les laisse. Peut-être certains ont déjà des monstres. Un, deux, trois, quatre. Peut-être certains sont en train de se demander s'ils n'allaient pas quitter la tour maintenant et abandonner le combat. Alors j'aimerais vous donner un encouragement maintenant. Cet encouragement, il réside dans la grâce de Dieu, qui nous sauve, mais aussi qui nous accompagne. Dieu nous aime et il est rempli de grâce pour nous. Et c'est cette grâce de Dieu qui est à l'origine de notre salut, si nous sommes enfants de Dieu. De toute éternité, Dieu nous aime et son amour ne dépend pas du nombre de lézards que nous avons dans notre tour. Son amour ne dépend pas non plus du nombre de lézards que nous avons réussi à arrêter devant la tour. L'amour de Dieu pour nous ne dépend que de l'œuvre de Christ à la croix qui m'a rendu propice à cet amour le jour où j'ai placé ma foi en Jésus. Si j'ai l'impression de ne pas mériter la faveur de Dieu, si j'ai l'impression d'être trop pécheur, quelque part, je fais bien, parce que personne ne mérite cet amour de Dieu. Mais si je suis né de nouveau, si j'ai placé ma foi en Jésus, et que j'ai l'impression que Dieu ne peut pas m'aimer, ne peut pas m'accepter dans son royaume, parce que ma vie est tellement entachée par le péché, alors c'est que je n'ai pas bien compris la grâce de Dieu. En fait, je suis en train d'imaginer que Dieu m'aime seulement si je le mérite et si j'ai réussi à bien tenir ma tour. Mais mon péché, quel qu'il soit, a été cloué sur la croix de Golgotha. Même le péché redondant de ma vie. Parce que Dieu m'aime uniquement par sa grâce. Regardez cette citation de Charles Spurgeon qui dit: Pour moi, savoir que Dieu me déclare juste est chaque jour la plus grande merveille dont j'ai jamais entendu parler. Je réalise que je suis un monceau d'indignité, une montagne de péché, un amas de corruption en dehors de son amour tout-puissant. Et pourtant, j'ai l'entière assurance d'être déclaré juste par la foi en Jésus-Christ et regardez comme si j'avais été toujours parfaitement juste. Je suis devenu héritier de Dieu et co-héritier de Christ, alors que par nature, je devais me ranger parmi les plus mauvais. Moi qui suis tout à fait indigne, je suis traité comme si j'avais été juste. Je suis aimé avec autant d'amour que si j'avais été toujours pieux, bien qu'autrefois j'aie été un pécheur. Qui n'en serait pas étonné? Si je suis au bénéfice de la grâce de Dieu, c'est parce que Jésus, Dieu le Fils, est venu sur terre et lui, par contre, a réussi à lutter. Lui, par contre, a réussi à garder sa tour. Sans jamais lâcher, jamais aucun lézard n'est entré dans la tour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu cette vie parfaite que je suis absolument incapable de vivre. Jamais aucune passion n'a eu raison de lui. Jamais aucun péché n'est entré. Il a toujours été vainqueur dans ses combats. Toujours. Il était parfait en tout point. Et il ne méritait pas la mort, qui est la conséquence du péché. Et pourtant, il est mort. Et il est mort non pas à cause de son péché, mais à cause du mien, à cause du tien, à cause de notre péché, du péché de l'humanité. Alors quand Jésus meurt sur la croix, il peut offrir sa justice parfaite à tous ceux qui croient en lui. Il prend leur péché, il prend leur condamnation et il offre cette tour gardée, ce cœur parfait qui est le sien. Voyez, contemplez la grandeur de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Pour bien saisir la beauté et la grandeur de la grâce, j'aime cette histoire aussi. C'est une histoire qui m'émeut souvent. En général, quand je la raconte, j'ai envie de pleurer. J'espère que ce ne sera pas le cas ce matin. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie. J'aimerais bien qu'elle soit vraie. Je ne sais pas. On raconte cette histoire d'un homme qui était en prison. Il avait été condamné parce qu'il avait fait quelque chose de terrible contre sa famille. Des choses très graves. Et pendant toute son incarcération, personne de sa famille n'est venu le voir. Au jour de sa sortie, il n'a qu'une envie, c'est de demander pardon à sa femme et à ses enfants. Il avait donc, quelques jours avant sa sortie, envoyé une lettre à sa famille pour leur demander pardon et pour leur dire aussi qu'il aimerait bien leur dire de vive voix, mais qu'en même temps, il comprendrait s'il ne désirait pas le voir. Alors il écrivit: Je ne souhaite pas vous imposer ma présence, mais si vous acceptez de me faire grâce, je suis prêt à venir vous demander pardon de vive voix. Alors le jour de ma sortie, je passerai en bus devant la maison. Et si vous acceptez que j'entre, alors simplement mettez un ruban rouge sur la porte de la maison. Alors je saurai que je peux rentrer. Mais s'il n'y a pas de ruban rouge, alors je partirai, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Le jour J arrive, cet homme prend le bus, ce bus qui passe devant son ancienne maison, mélange de tristesse, de joie, d'impatience, de peur. Et puis il y a une petite dame à côté de lui qui le voit et qui voit qu'il n'est pas bien. Alors il lui demande: Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et il lui raconte tout. Écoutez, monsieur, si vous voulez, je peux vous aider et je vais regarder pour vous. Je vous dirai s'il y a ce ruban rouge sur la porte. Et l'homme accepta. Le bus continue et le moment fatidique arrive. La maison se trouvait derrière le prochain coin de rue. L'homme se retourna et attendit. D'un seul coup, la femme s'écria: Regardez! L'homme se retourne et ce n'est pas un ruban rouge, mais des centaines de rubans rouges sur la maison et sur les arbres autour. Hein. J'ai essayé de me maîtriser. Voyez combien la grâce de Dieu est grande. Ces centaines, ces milliers de rubans rouges sur notre vie qui sont là pour nous montrer: je te pardonne et je veux recommencer quelque chose avec toi. Mais voyez, la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. Elle est encore plus grande que ce qu'on peut imaginer. Parce qu'il y a un autre texte de la Bible qui nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. La grâce de Dieu, c'est nous traiter mieux que nous méritons, mais c'est aussi de nous aider concrètement à mener ce combat jour après jour contre le péché. Si je me bats tout seul, le combat, il est perdu d'avance. Mais Dieu m'offre cette grâce de me transformer et de m'aider et de combattre avec moi. Quelle grâce extraordinaire! Quelle grâce extraordinaire de se savoir aimer, sauver, accompagner, aider pour lutter et persévérer. Alors maintenant, on peut se poser la question: comment lutter concrètement? On a compris la grâce de Dieu. J'espère que vous l'avez compris, que vous l'avez saisi, la grâce de Dieu pour vous. Mais comment on peut faire maintenant, concrètement? Eh bien, on va regarder très rapidement la suite de notre texte. Et dans la suite du texte, Jacques, il nous donne 10 conseils. Ça fait beaucoup, je sais, mais ce sera très rapide, ne vous inquiétez pas. 10 conseils pour nous aider à lutter contre le péché. Probablement que vous n'arriverez pas à retenir les 10. Prenez-en un ou deux, ceux qui vous parlent le plus ce matin. Notez-les. Et puis cette semaine, réfléchissez comment vous pouvez lutter grâce à ces conseils de Jacques. Le premier conseil qu'il nous donne: aimez Dieu plus que le monde. Regardez le verset 4. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Alors quand Jacques, parle d'adultère ici, c'est un sens spirituel. C'est le fait d'abandonner Dieu pour d'autres dieux. C'est le fait que finalement ces lézards sont venus dans nos vies, sont devenus des monstres, et puis on se retrouve à aimer ces monstres, et peut-être même à les adorer. Le monde, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ce monde qui est pécheur, mauvais, qui se détourne de Dieu et qui refuse la grâce de Dieu. C'est pas tout ce qui est dans le monde qui est mauvais, Mais tout ce qui est dans le monde qui refuse Dieu. On ne peut pas aimer le monde et Dieu. On ne peut pas aimer le péché et aimer Dieu. On ne peut pas aimer nos lézards et nos monstres et aimer Dieu. Et donc le combat commencera le jour où j'aurai détesté mon péché. Haï mon péché, mes convoitises, mes passions, mes désirs égoïstes. Et si j'ai la moindre tolérance d'amour pour n'importe lequel de ces péchés, la lutte, elle n'a pas encore commencé. Tim Chalice écrit « Par la grâce puissante et agissante du Saint-Esprit, nous pouvons et devons haïr le péché, l'étouffer et planter une épée dedans. Nous devons souvent méditer sur les conséquences horribles qu'entraîne le fait de pécher contre notre bien-aimé Dieu, trinitaire et sauveur. » Qui aimons-nous le plus ? Dieu ou le monde ou notre péché ? Deuxième conseil, croire en l'autorité de l'Écriture. Au verset 5, Jacques écrit « Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture ? » Est-ce que je prends la Bible au sérieux ? Ou bien est-ce que je choisis de croire ce que je veux ? Vous savez, dans les armes que Dieu donne aux chrétiens pour lutter contre les traits enflammés du malin dans Éphésiens 6, il y a l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit par son esprit dans la Bible, c'est sérieux. Mais malheureusement, un grand nombre de chrétiens ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu. Et les lézards rentrent. Parfois, deviennent des monstres. Alors, pour se battre, munissons-nous de cette arme extraordinaire qu'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Mais celle-ci, elle est là. Et Jacques nous en parle. Troisième conseil. Comprendre l'amour de Dieu pour nous. Versets 5 et 6, je vais les lire. « Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Dieu est un Dieu jaloux. Et c'est une affirmation qui apparaît une vingtaine de fois dans la Bible. Et ça nous montre combien Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il ne peut supporter nous voir nous tourner vers d'autres dieux. Voyez la grandeur de l'amour et de la grâce de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné la vie. Il nous aime tellement qu'il nous a désirés depuis toute l'éternité. Il nous aime tellement qu'il nous a créés merveilleusement. Il nous aime tellement que lorsque nous étions encore pécheurs, il s'est livré à la croix en la personne du Fils et il nous a donné son esprit. Voyez-vous encore une fois l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu? Comprenons, méditons, acceptons humblement l'amour et la grâce de Dieu pour nous. Plus je comprends l'amour de Dieu et plus je voudrais l'aimer. Plus je voudrais aimer Dieu et moins je désirerais laisser libre cours à mes désirs égoïstes. Et puis moins je désirerai laisser libre cours à mes désirs égoïstes, et moins les lézards deviendront des monstres. Comprenons, méditons toujours sur la profondeur de l'amour de Dieu. Cinquième conseil, résistez au diable. Il dit au verset 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ça peut paraître facile de dire ça, « Résistez au diable ». Mais regardez à quel point c'est encourageant cette parole de la Bible. C'est qu'ici nous avons une promesse qui est que ma résistance au diable, et non ma résistance à Dieu, résister au diable portera du fruit. Je me suis trompé, je suis désolé. C'est la suivante, je reviendrai sur la soumission à Dieu. Résister au diable portera du fruit parce que le diable fuira. Vous vous rendez compte? En tant que chrétiens, nous avons été transférés finalement de notre loyauté à Satan et une loyauté envers Dieu. Et parfois, je vais devoir fuir, moi, devant les tentations. Mais le diable, lui aussi, fuira quand nous résisterons. C'est une promesse de la Bible. C'est une promesse encourageante, n'est-ce pas? Le combat, quand on résiste, à un moment, ça porte du fruit. Et Dieu ne nous abandonne pas. Et le malin fuira. Pour dire autrement, le lézard ne reste pas indéfiniment devant la porte. Si je tiens ferme, un moment il partira. Se soumettre à Dieu, je l'ai sauté, je suis désolé, c'est le début du verset 7. Jacques, il dit « soumettez-vous à Dieu ». Alors ça semble évident de se soumettre à Dieu quand on est chrétien, mais si Jacques le rappelle, c'est que ce n'est pas si évident que ça. Parce que le réflexe du péché finalement qui habite en nous, qui, c'est de résister à Dieu. Mais l'Esprit m'apprend petit à petit à me soumettre toujours à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a raison, tout simplement. Et pour moi, à chaque fois que je me montre rebelle à Dieu, que je désire écouter ma volonté plutôt que celle de Dieu, alors je commence à laisser rentrer les lézards dans ma vie. Sixième conseil, s'approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu, au verset 8, et il s'approchera de vous. Encore ici, un impératif qui est accompagné d'une promesse. De la même manière que j'ai la certitude que ma résistance au diable engagera sa fuite, de la même manière, j'ai cette certitude qu'en m'approchant de Dieu, Dieu se laissera trouver. Quelle promesse merveilleuse! Au plus fort du combat, j'ai cette ferme assurance que Dieu répondra présent à mon appel. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, c'était les seuls qui avaient ce privilège de pouvoir s'approcher de Dieu. Et encore, c'était s'approcher de Dieu, quelque chose qui manifestait la gloire de Dieu. Et cela fait partie des privilèges de la Nouvelle Alliance quand nous sommes chrétiens, quand nous croyons en Jésus-Christ, que nous nous repentons de notre péché. Alors nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu et Dieu habite en nous. Approchons-nous de Dieu. Entretenons notre intimité avec Dieu pour qu'il réponde présent. Être chrétien, ça signifie évidemment la soumission à Dieu, comme on l'a dit, la résistance à Satan, mais aussi cette intimité qui se travaille, qui se développe avec le Créateur, avec notre Créateur, avec notre Père. Nous avons la prière, nous avons la parole, nous avons l'Esprit, nous avons l'Église, nous avons tous ces moyens que Dieu nous donne pour nous approcher de Lui. Mais si nous ne nous approchons pas de Dieu, nous laissons rentrer des lézards. Septième conseil, confesser son péché, se purifier. Au verset 8, il est écrit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. » Il y a deux impératifs ici qui sont évidemment symboliques. Hein. Il ne s'agit pas juste de se laver les mains avec du savon et on est tranquille pour être pur. Non, non. C'est cette image qui nous vient de l'Ancienne Alliance où les prêtres, justement, au moment où ils s'approchaient de Dieu, ils devaient se purifier eux-mêmes, se purifier les mains. Et ils devaient aussi reconnaître leurs péchés, confesser leurs péchés. Et par le lavage des mains, c'est cette symbolique de ce péché qui est extérieur à nous, que l'on fait. Et par la purification du cœur, c'est aussi ce péché intérieur en nous, dans nos pensées, dans nos cœurs. Et j'ai besoin de discerner mon péché, le nommer, le confesser, dire à Dieu, j'ai laissé rentrer des lézards. Il y en a là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Confesser son péché afin d'entretenir cette purification qui nous a été obtenue à la croix. Oui, Dieu nous a purifiés et je dois entretenir ça en me confessant et en appelant péché ce que Dieu appelle péché. Ne cachons pas les choses à Dieu. On peut tromper plein de gens, mais on ne trompe pas Dieu. Alors, confessons notre péché à Dieu. Confessons-le à d'autres aussi, ça nous aide. Huitième conseil, avoir une sainte tristesse. Regardez le verset 9. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Alors bien sûr, là, Paul, il n'est pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de se réjouir. D'autres textes de la Bible nous parlent de la joie qu'on a en Christ, de la joie du salut, de la joie en Dieu. Mais là, Jacques, il est en train de dire, attention, il y a un temps pour être joyeux, mais il y a aussi un temps où il faut arrêter d'être joyeux. Parce que face à mon péché, je ne peux pas simplement dire tout va bien et continuer à être joyeux comme si de rien se passait, comme si s'il ne se passait rien. Je ne peux pas vivre dans le péché, accepter mes désirs égoïstes, mes passions, et puis vivre comme si rien n'était. Moi, je pense, en lisant ça, aux gens de Noé, de l'époque de Noé, qui se mariaient, qui mariaient leurs filles, qui se réjouissaient, alors que le texte nous dit que la terre était corrompue et remplie de violence devant Dieu. On ferme les yeux et on se dit tout va bien. Mon péché doit créer en moi une sainte tristesse qui produit une repentance qui mène au salut et qu'on ne regrette pas, dit Paul aux Corinthiens. C'est une tristesse qui prend les choses au sérieux, qui refuse toute complaisance avec le péché et qui condamne le péché. C'est une tristesse qui s'indigne de mon péché et qui même va produire la haine contre mon péché à cause du mal que je fais à Dieu. C'est une tristesse qui est remplie d'une sainte crainte de Dieu. C'est une tristesse qui me permet de connaître la restauration dans ma relation brisée avec Dieu ou dans ma relation brisée avec les autres. Une tristesse qui désire rendre justice en acceptant les conséquences de mon péché. Neuvième conseil, s'humilier. Au verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. En fait, de l'humilité dépend tous les autres conseils que Jacques donne. Parce que pour lutter contre ses désirs égoïstes, contre ce péché, nous devons être humbles. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. C'est dans cette attitude d'humilité qui caractérise le chrétien que Dieu nous élèvera et nous montrera la vraie valeur que nous avons en lui. Nous ne méritons rien, mais Dieu désire nous élever et nous accorder valeur, dignité, malgré nos défauts et nos fautes. Et le dernier conseil que nous avons, bénir et non maudire. Et je vous lis les derniers versets de notre passage ce matin, les versets 11 à 12. Ne médisez pas les uns les autres, frères. Celui qui médite un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? La pensée de Jacques, elle est claire ici. Celui qui maudit, celui qui juge quelqu'un, se met à la place de Dieu. Et attention, Jacques, il ne parle pas là de la réalité de reprendre son frère qui est dans le péché. Ça, c'est quelque chose que Dieu nous demande, que Jésus nous commande. Il ne parle pas de ça, de prendre soin de l'autre en disant « Écoute, tu es en train de te planter. Est-ce que tu as vu tous les lézards qui sont en train de monter et que tu laisses rentrer dans ta vie ?» Ce n'est pas ça, juger. Juger, c'est finalement vivre des accusations calomnieuses, le mépris, la critique, parler mal des autres, se poser en juge des autres en les condamnant. Dieu seul a le droit de sauver du châtiment ceux qui se repentent et de condamner ceux qui refusent de se repentir. Pas nous. Alors utilisons notre langue pour bénir et non pour maudire, afin de ne pas donner accès au diable. Alors pour conclure, pour que la paix règne dans l'Église, comme nous l'avons tout à l'heure encore dit, chaque chrétien doit lutter contre les désirs mauvais de son cœur. Que nous puissions cette semaine, dans les semaines suivantes, dans les semaines qui viennent et tout au long de notre vie, prendre au sérieux cette lutte contre le péché, pour la gloire de Dieu et pour l'amour de notre prochain. Si nous sommes croyants, c'est jamais trop tard. En tant que croyant, et je veux vraiment t'encourager, si jamais tu vois dans ta vie qu'il y a plein de lézards ou de monstres dans ta tour et que tu as envie d'abandonner, rappelle-toi de la grâce de Dieu qui pardonne, qui purifie et qui t'accompagne jour après jour. Si tu n'es pas croyant, alors c'est le moment, justement, de saisir cette grâce de Dieu pour que tu puisses goûter combien le Seigneur est bon dans cette vie extraordinaire où tu n'es plus esclave de ses passions, de ses désirs, de ton péché, mais où tu deviens au service d'un maître qui est bon, qui veut ton bien. Un maître qui est victorieux, qui lui n'a jamais péché et qui va t'amener à la victoire avec lui. Il a combattu pour toi. Alors n'aie pas peur de saisir cette vie nouvelle que Dieu t'offre. Amen.